and let's make America great again.
We just need to remember, there's nothing we cannot do if we do it together.
La politique américaine est un Far West où tous les coups bas, les coups d'éclat sont permis. Je m'appelle Magali Barthès. Après vous avoir fait vivre cette élection hors norme sur LCI et dans ce podcast, je vous propose qu'on plonge ensemble, avec mes invités, avec nos correspondants, dans la présidence de Joe Biden. Réussira-t-il son pari de réconcilier l'Amérique? Quel rôle jouera Donald Trump, toujours en embuscade? Le feuilleton continue. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Far West. Joe Biden sera-t-il le grand réformateur de l'Amérique ? Plan de relance massif post-Covid, plan d'investissement colossal dans les infrastructures, tout ça financé par des hausses d'impôts. Joe Biden a de l'ambition, non, décidément, il n'est pas le Joe l'endormi que raillait Donald Trump. Alors a-t-il une chance de gagner son pari, de laisser sa trace dans l'histoire, comparable à un Roosevelt et à son New Deal? J'ai eu envie cette semaine d'avoir le regard de quelqu'un qui connaît parfaitement l'Amérique, qui a côtoyé ses présidents, qui a suivi aux premières loges l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Bonjour Gérard Haro.
Bonjour.
Vous êtes notre ancien ambassadeur à Washington, mais aussi avant à l'ONU ou encore en Israël. Merci d'être avec nous une nouvelle fois dans Far West. Vous êtes en ligne avec nous depuis New York, où vous vivez désormais après 40 ans de carrière au service du Quai d'Orsay. Une carrière que vous nous racontez hein, d'ailleurs dans votre livre « Passeport diplomatique », c'est chez Grasset. En ligne avec nous aussi depuis Washington, comme toujours, bien sûr, Catherine Gentil de Cannes-Côte. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Correspondante de TF1 et de LCI. On va donc parler ensemble de cette révolution qui est en train d'impulser Joe Biden. Le président était à Pittsburgh il y a quelques jours pour faire la promotion de son plan d'investissement pharaonique. On parle là de ponts, de routes, mais aussi d'Internet à haut débit pour désenclaver les zones rurales, d'argent pour les personnes âgées, handicapées, d'argent pour financer aussi la transition écologique, build back better, reconstruire l'Amérique, mais en mieux, c'est le mot d'ordre du président. On l'écoute tout de suite.
C'est le plus gros investissement américain dans l'emploi depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela va créer des millions d'emplois, des emplois bien rémunérés. Cela fera croître l'économie, nous rendra plus compétitifs dans le monde, renforcera notre sécurité. Nous allons nous mettre en position de gagner la compétition mondiale avec la Chine dans les années à venir.
Alors, entre le plan de relance post-Covid déjà adopté, maintenant ce plan pour les infrastructures, on parle de plus de 4 000 milliards de dollars. C'est colossal. Gérard Haro, tout le monde voyait en Biden un centriste bon teint, plutôt partisan du statu quo. Vous vous attendiez à ce qu'il aille aussi loin, à ce coup de barre à gauche?
Non, avouons-le, nous ne s'attendions pas que ce vieux monsieur, à la démarche incertaine, qui tombe dans les escaliers, au lapsus préoccupant, allait être autre chose qu'un président de transition. Tout le monde se préparait déjà à la vraie échéance 2024, et puis voilà, on se demande quelle mouche gauchiste a piqué Biden. Vous avez parfaitement raison, le plan de relance pour le Covid, c'est quand même 9% du PIB américain. Et le nouveau plan qui nous annonce, ce serait quelque chose comme entre 13, 14 ou 15% du PIB américain. Et à cette relance massive, il faut ajouter aussi une loi électorale et d'autres mesures qui nous laissent en effet entendre qu'il a décidé d'aller à gauche.
Ouais. Joe Biden se met dans les pas de Roosevelt. Il a d'ailleurs son portrait dans le bureau ovale. Roosevelt, l'homme du New Deal, qui a investi aussi, lui, massivement pour sortir le pays de la Grande Dépression. C'est lui la source d'inspiration. Est-ce que la comparaison dont on parle beaucoup, elle marche d'après vous?
Alors, c'est assez curieux parce que je me rappelle que lorsque Biden a été élu, je répondais, c'est peut-être la présidence la plus difficile et la plus importante depuis celle de Roosevelt. Cela correspond tout d'abord au fait que les États-Unis traversent une crise politique, sanitaire et économique de l'ampleur de celle que Roosevelt, à laquelle Roosevelt devait faire face. Et la presse, d'ailleurs, américaine le répète maintenant, mais pas seulement le nouveau Roosevelt, on parle aussi d'un nouveau Johnson, parce qu'il y a eu aussi Lyndon B. Johnson avec ce qu'on a appelé la grande société. Vous savez, j'ai beaucoup parlé à la nouvelle administration parce que la plupart de ces agents, de ces responsables, eh bien, ils étaient là à l'époque d'Obama et je les connais à peu près tous. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ce qui est derrière cette politique, qu'ils assument parfaitement, ce n'est pas tellement la gauche américaine de Sanders, c'est, tous me disent, le choc qu'ils ont ressenti à la campagne menée par les Républicains pour contester le résultat de l'élection présidentielle, l'émeute du 6 janvier, et donc ça a été pour eux quasiment, je ne dirais pas un chemin de Damas, mais la découverte de la profondeur de la crise américaine. Jusque-là, ils avaient tendance à penser que Trump était un accident de l'histoire. Là, m'ont tous-ils dit, nous avons compris que quelque chose de grave arrivait dans la société américaine et qu'on ne pouvait pas faire comme avant. Et donc, tous ces gens-là, qui ont tous travaillé sous Obama, tous, eh bien, ces gens-là ont décidé que la politique à la Obama ou à la Clinton ne suffisait pas.
Ouais, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Alors, pour financer ces investissements, Biden veut laisser filer la dette et augmenter les impôts sur les sociétés, hein, de 21 à 28 %. Ça aussi, c'est un coup de tonnerre. Comment ça réagit aux États-Unis ?
Alors, je crois que plus profondément, on l'avait vu avec Trump, hein, et on le voit maintenant avec Biden, nous sortons de l'ère néolibérale. Le néolibéralisme, c'est-à-dire au fond la synthèse Clinton ou Blair au Royaume-Uni, c'était baisser les impôts, l'État ce n'est pas bien, les frontières ce n'est pas bien, il faut faire finalement un filet de sécurité et faire confiance au marché. Eh bien, tout cela, c'est fini. On l'avait vu avec Trump. Je vous rappelle que Trump, s'il avait baissé les impôts, avait en même temps augmenté le déficit budgétaire et avait introduit ou réintroduit ou ramené le protectionnisme dans la politique américaine. Eh bien, aujourd'hui, on constate que Biden est en train de bousculer ou de balayer d'ailleurs tous ces piliers du néolibéralisme. C'est-à-dire, il ramène l'État au centre de la vie politique américaine, la dépense publique, la réglementation, le protectionnisme. Je suis convaincu que, Biden réussisse ou pas, nous entrons dans une nouvelle ère. C'est fini, les 40 ans qui ont été inaugurés par Ronald Reagan. Pour être brutal, je dirais, l'État est de retour.
Ouais. Catherine Gentil, justement, à Washington, qu'est-ce qu'on en dit de ce coup de barre à gauche de Joe Biden ? Est-ce que son plan d'investissement, est-ce que ces hausses d'impôts prévues, tout ça, est-ce que ça a une chance d'être adopté ? Est-ce que ce plan a une chance de passer ?
Ah ben c'est sûr que ça nécessitera toutes les qualités de négociateur de Joe Biden et son équipe, mais en même temps, c'est vrai que cette crise du Covid, ça a été quand même un déclencheur. Hein. Et il faut savoir que quand on parle des infrastructures aux États-Unis, franchement, et Gérard Haro ne me démentira pas, j'imagine, il y a certains endroits dans le pays et proches des grandes villes où on a quand même l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. Les ponts sont à moitié craquelés de partout. Quand vous voulez prendre le train entre New York et Washington, il n'y a pas de train à grande vitesse. Il faut savoir qu'il y a des écoles publiques ici qui sont fermées depuis plus d'un an, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas pu remettre les pieds à l'école parce que les écoles publiques, n'ayant pas suffisamment d'argent, ne peuvent pas mettre en place tous les systèmes nécessaires pour garantir la santé des enfants avec des classes suffisamment grandes pour écarter les tables, etc. Donc ça a quand même été un choc énorme, cette crise du Covid, avec toutes ses implications, évidemment un chômage comme on n'en avait pas vu depuis très très longtemps. Donc en plus, Joe Biden a un argument qui évidemment va droit au cœur des gens qui sont même un tout petit peu à gauche ou même la droite modérée, en disant, quand on pense que justement les essential workers, c'est-à-dire les travailleurs essentiels comme les pompiers ou les enseignants, eux payent 22% d'impôts sur le revenu alors que Amazon ne paye rien du tout, eh bien augmenter les taxes des entreprises de 21 à 28%, là à ce moment-là, c'est plus un sacrilège, c'est plutôt une histoire de justice. Et c'est sur ces arguments-là qu'il va s'appuyer Joe Biden pour faire progresser son projet. Mais effectivement, les Américains, c'est quand même un sujet qui leur parle, alors qu'ils soient après d'accord ou pas sur la manière de reconstruire. Mais en tout cas, ce n'est pas un sujet qui tombe à côté de la plaque. Ils sentent quand même bien le pays de Joe Biden.
Catherine, en attendant, la reprise, elle se confirme aux États-Unis grâce aussi à cette campagne de vaccination qui est un indéniable succès. Tu t'es fait vacciner toi-même dans le cadre d'un reportage. Ça avait l'air incroyablement simple. Hein, oui. Ça, c'est vrai. C'est assez étonnant.
Ah oui, ça a pris exactement 2 minutes. Oui, c'était dans le Mississippi, qui était un des 2 premiers États à vacciner toute sa population. Donc, soit sa population, soit les gens qui travaillaient dans l'État. Et donc, en l'occurrence, comme on venait travailler pour faire un reportage, effectivement, en 2 minutes, ils m'ont vacciné. Ils m'ont juste demandé si j'avais des allergies. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je sais que ça a fait rêver les Français.
L'économie américaine, elle fait rêver aussi parce qu'elle est en train de créer des emplois. Hein. Le chômage est retombé à 6%. Et tu as pu le constater d'ailleurs en Californie, extrait de l'un de tes reportages à Los Angeles il y a quelques jours, dans une ville qui retrouve tout son dynamisme.
C'est vraiment génial de retrouver une vie normale.
C'est tellement mieux que de rester à la maison.
Le matin, aux heures de pointe, il y a de nouveau des embouteillages pour entrer dans Los Angeles. Et dans les centres où l'on accueille les chômeurs, les offres d'emploi se multiplient.
Tout commence à rouvrir et les entreprises sont en train d'embaucher à nouveau. D'ailleurs, nous aussi, on a dû recruter pour faire face à toutes les demandes.
L'un des secteurs qui embauche le plus est celui de la restauration, de nouveau ouvert au public, comme les salles de spectacle, les stades et les musées, même si ce n'est pas encore à 100%.
Alors, est-ce que Catherine, tout ça est mis au crédit de Joe Biden ? C'est quoi son image aujourd'hui ?
Ben en fait, ça dépend quand même énormément du camp politique auquel on appartient, parce que les Trumpistes, évidemment, ne cessent de rappeler que si Donald Trump n'avait pas tout de suite réagi au moment du Covid en mettant 15 milliards sur la table pour la recherche, le développement des vaccins, s'il ne les avait pas tout de suite réservés, s'il n'avait pas lancé une grande mission justement de distribution des vaccins à travers le pays, etc., on n'en serait pas là. Et s'il n'avait pas aussi d'ailleurs quand même donné des bénéfices, comme on dit ici, aux chômeurs, aux gens qui ont brutalement perdu leur emploi, on n'en serait pas là. Et évidemment, les démocrates, eux, disent que heureusement que c'est Joe Biden qui a été élu, puisque lui, justement, il s'était fixé comme objectif, par exemple, dans les 100 premiers jours de son mandat, de faire vacciner 100 millions de personnes. Il y est arrivé, je crois, dès le 53e jour. Et que donc, effectivement, il a mis en marche une machine beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Donc, évidemment, chacun essaie de tirer la couverture à soi sur cette crise qui a été absolument majeure, bien sûr, aux États-Unis. Mais maintenant, c'est là où, effectivement, les décisions vont être prises. Est-ce que Joe Biden va réussir à appliquer ou non son programme et est-ce qu'il pourra justement du coup en tirer tous les bénéfices? On va le savoir dans les semaines qui viennent.
Alors Gérard Haro, est-ce que d'après vous ce qui se passe aux États-Unis, les choix de Joe Biden vont avoir une influence au-delà des frontières américaines, influencer par exemple la politique européenne, enclencher une dynamique?
Naturellement, de toute façon, hein, les États-Unis, ce que les États-Unis font décide à toujours. Qu'on s'en réjouisse ou pas, a toujours de l'influence sur le reste du monde. Alors là, l'influence, on peut l'avoir de plusieurs manières. Tout d'abord, il y a le fait que l'économie américaine va jouer le rôle du locomotive pour la croissance mondiale. Les chiffres annoncent une croissance de 7% en 2021, de 5,5% en 2022. Évidemment, ça veut dire que les Américains vont importer des produits européens. Deuxième type d'influence, alors là, influence plutôt négative, c'est, comme je vous l'ai dit, le protectionnisme est de retour. Il l'était sous Trump, il va continuer à l'être sous Biden. Or, nous avons un certain nombre de contentieux commerciaux, notamment entre Boeing et Airbus, ce contentieux qui dure depuis maintenant des décennies, mais il y en a d'autres aussi. Et je crains que la négociation qui va être conduite sera plus difficile qu'on ne le pense et que nous pourrions avoir d'autres problèmes dans nos échanges avec les États-Unis. Troisième type d'influence, là je parle en termes économiques et pas de politique étrangère, en termes économiques, comme je vous l'ai dit, on le sent aussi au Royaume-Uni et maintenant aux États-Unis, il y a une nouvelle donne internationale qui se met en place, une nouvelle donne monétaire, j'ai appelé ça la sortie du néolibéralisme, Lorsque les États-Unis acceptent de faire exploser leur déficit budgétaire, ça a évidemment des conséquences sur le cours du dollar, donc ça en aura sur le cours de l'euro. Mais on risque de se trouver dans une situation assez paradoxale que l'on avait déjà vue un petit peu en 2008, c'est-à-dire avec des États-Unis qui se livrent à une relance budgétaire massive, de type keynésien, hein, si vous savez bien. Keynes, c'était vous faites des trous, c'est bon pour l'économie. Eh bien voilà, on y est du côté américain. Or, du côté européen, on le sait bien, dans la zone euro, c'est l'inverse. Vous avez des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, qui sont encore sur la notion de l'équilibre budgétaire, une politique monétaire restrictive. Moi, j'étais ambassadeur à Washington en 2009-2010. Déjà à cette époque, l'administration Obama ne comprenait pas la politique suivie dans l'eurozone, ne comprenait pas qu'au lieu de continuer à faire de la relance, comme les États-Unis continuent de le faire, les Européens, après avoir timidement fait un peu de relance pendant 6 mois, avaient de nouveau fermé les robinets. Donc là, il risque d'avoir également d'abord une tension entre dollars et euros. L'euro pourrait remonter si, dans ces conditions. Et de nouveau, cette divergence de politique économique et monétaire entre les deux rives de l'Atlantique.
Alors, l'objectif de Joe Biden, en investissant comme il le fait, hein, massivement, c'est d'avoir, et on l'a entendu tout à l'heure, une Amérique plus forte, dit-il, mieux armée pour rester numéro un dans la compétition internationale. Évidemment, d'abord et avant tout, face à la Chine. Pour le président américain, ce qui se joue aujourd'hui, c'est rien de moins que la survie de la démocratie face aux régimes autoritaires. Écoutez.
We are in the midst of a fundamental debate. Nous sommes au milieu d'un débat fondamental qui va dicter la direction que prendra notre monde. Nos enfants, nos petits-enfants feront leur thèse sur ce moment de l'histoire, ce duel entre démocratie et autocratie. Et je crois, moi, du plus profond de mon être, que la démocratie l'emportera. Elle le doit. Nous devons prouver que notre système n'est pas une relique de l'histoire. C'est la meilleure façon de tenir les promesses de l'avenir.
Alors, vous qui avez été diplomate pendant 40 ans, vous pensez que Joe Biden a raison, qu'on est vraiment dans une espèce de nouvelle guerre froide, que le monde se sépare ainsi en deux blocs ?
Non, naturellement, je ne le pense pas, parce qu'après tout, il y a des autocraties ou des régimes autoritaires qui sont, entre guillemets, à nos côtés. Par exemple, parmi les monarchies du Golfe. Ce qui se met en place, c'est une rivalité de puissance qui est assez traditionnelle, et ce n'est certainement pas une nouvelle guerre froide. Ce n'est pas une nouvelle guerre froide parce que la Chine n'est pas une menace idéologique. La Chine soutient les régimes autoritaires, mais il n'y a pas de modèle chinois qui se répand. Nous n'avons pas un parti communiste chinois à Paris à plus de 20%. Alors que nous avions, vous le savez, un parti communiste proche de l'URSS à plus de 20%. Ce n'est pas tant une menace idéologique qu'une rivalité de puissance. C'est très traditionnel. Et donc, la contrainte pour la nouvelle administration américaine, c'est de réussir à mettre en place un modus vivendi avec la Chine, fondé à l'évidence à la fois sur l'endiguement et sur le dialogue. Il faut dialoguer, ne serait-ce que parce que les deux économies sont intimement liées. Mais vous savez, les États-Unis ont toujours été mal à l'aise avec ce qu'on appelle les rapports de force ou la realpolitik. Il leur faut toujours, et ils sont sincères, il leur faut toujours, je dirais, un habillage idéologique. Les États-Unis se voient différents des autres, donc les États-Unis ne font pas la realpolitik froide et cynique des Européens, mais eux, ils défendent les valeurs. Et donc, une fois de plus, on est face à la Chine, eh bien, on a besoin d'habiller cette rivalité géopolitique, je dirais, d'un oripo idéologique.
Il y a quand même un point commun entre Biden et Donald Trump. La vraie menace, disent-ils tous les deux, finalement, c'est la Chine. Est-ce que, finalement, là-dessus, Donald Trump n'avait pas raison ? Est-ce qu'il n'a pas eu le mérite, au moins, de faire ouvrir les yeux aux Américains ?
Vous savez, en octobre 2018, j'étais ambassadeur encore, en octobre 2018, le vice-président Pence a fait un discours à Washington, assez violent contre la Chine. Et ensuite, j'avais rencontré des spécialistes de la Chine, et en particulier ceux qui avaient travaillé auprès d'Obama sur ce sujet. Eh bien, tous me disaient ce que, pour ce que vous me dites vous-même, tous me disaient, Trump a raison, nous aurions dû le faire plus tôt. Je crois qu'il n'y a qu'un seul élément de consensus à Washington. Hein. Pour reprendre ce que dit Catherine, c'est vrai, en politique intérieure, il n'y a aucun consensus. Les républicains s'opposeront à ce que proposera Biden, quoi que propose Biden, mais y compris le plan d'infrastructure. Ce sera vraiment, c'est bloc contre bloc. En revanche, sur la Chine, eh bien oui, il y a un consensus aux États-Unis sur le fait que, que le pays a un rival stratégique, et ce rival stratégique, c'est la Chine.
Est-ce que dans ces débuts de Joe Biden en matière de politique étrangère, il y a des points, des choses, des dossiers qui vous étonnent, des choses qui vous surprennent ?
Je dirais non, pas vraiment. En politique étrangère, moi je m'attendais à ce qu'il y ait un vrai pivot vers l'Asie. L'Asie parce que c'est là que va se déployer la rivalité avec la Chine, et puis parce que c'est là que sont les réserves de croissance de l'économie mondiale. Obama pensait que l'avenir du monde se déciderait entre New Delhi et Los Angeles. C'est un petit peu la conviction de la plupart des Américains. Et dans ce partage, l'Europe, c'est un peu la vieille amie, quoi, la vieille tante qu'on aime bien, et donc on veut rassurer parce qu'elle a été traumatisée, parce qu'elle est fragile psychologiquement, elle a été traumatisée par Donald Trump, donc on y va et on lui passe la main dans le dos, on lui dit « mais oui, on t'aime bien », mais ça n'ira pas plus loin, parce que en ce qui concerne la Russie, la conclusion est claire, il n'y a rien à faire avec Poutine. Déjà Obama avait essayé en 2009 ce qu'on avait appelé le reset, c'est-à-dire un rapprochement avec la Russie. Ça n'avait mené nulle part. La Russie a eu l'affreuse idée d'essayer d'interférer avec les élections américaines. Il y a eu les assassinats. Donc, la Russie, on va la tenir à bout de gaffe, de temps en temps en tapant, en disant « attention, si vous faites quelque chose en Ukraine, on réagira, mais il n'y aura pas de grandes relations ». Et avec l'Europe, l'Europe, on la rassure, mais on ne va pas s'occuper de tous les sujets européens, c'est-à-dire que l'Ukraine, la Syrie, la Libye, c'est l'affaire des Européens et pas des Américains. Donc, moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y aurait pas tellement de rupture dans la politique étrangère entre Trump et Biden. Il y aura un retour au multilatéralisme, certes, parce que Trump détestait les alliances, détestait tout ce qui était multilatéralisme, mais le multilatéralisme à l'américaine, vous le savez, ça veut dire sous direction américaine. Voilà, donc on revient à une politique américaine, je dirais un peu plus traditionnelle, mais une politique américaine non interventionniste. On ne revient pas aux États-Unis gendarmes du monde. Les États-Unis, comme je l'ai dit, n'enverront pas les GIs à Damas ou à Tripoli.
On arrive à la fin de ce podcast et comme toujours, on va aller quand même prendre des nouvelles de Donald Trump. Catherine, depuis la Floride, il règle ses comptes. Hein. En ce moment, il n'y va pas de main morte. Il se lâche contre tous les républicains qui ne l'ont pas soutenu. Est-ce que, déjà, qu'est-ce qu'il dit exactement et est-ce que c'est lui qui continue à tirer les ficelles du parti aujourd'hui ?
Ah oui, pour l'instant, c'est toujours la figure incontournable du Parti républicain, ce qui ne veut pas dire qu'il le sera encore dans 4 ans pour la prochaine élection présidentielle. Mais c'est vrai que là, il est solidement installé dans sa maison de rêve de Mar-a-Lago. Il a même fait des photos qu'ont fait rire une partie de l'Amérique avec ses petits-enfants pour Pâques, pour donner une image de lui décontracté et on pourrait dire sereine presque. Mais ça paraissait tellement mis en image que du coup, c'était un peu moins crédible. Mais de toute façon, là-dessus, et puis sur beaucoup d'autres choses, au moins, Donald Trump, on peut lui reconnaître une qualité, c'est qu'il fait ce qu'il dit souvent. Et il avait dit clairement qu'il allait s'en prendre à ceux qui n'avaient pas été suffisamment loyaux, selon ses critères à lui, vis-à-vis de sa personne. Et c'est évident qu'à chaque élection ou à chaque fois qu'il va avoir la possibilité de régler ses comptes et d'empêcher un de ses ennemis ou au moins un de ses alliés pas suffisamment chaud et cordial avec lui d'être réélu, par exemple, il va mettre tout son poids dans la balance pour avoir et conserver justement cette nouvelle génération de républicains aussi plus jeunes et qui sont des trumpistes décomplexés, ou même s'ils ne sont pas trumpistes, en tout cas, ils ont les mêmes idées que lui. Et il est clair qu'il entend jouer un rôle absolument déterminant dans les années qui viennent. Et s'il peut, il se représentera effectivement en 2024. Attendons de voir s'il est poursuivi en justice et comment ça se termine, s'il est condamné ou pas. Mais s'il n'a pas cet obstacle-là sur sa route, c'est sûr que ça doit bien lui... Enfin, non seulement le matin quand il se rase, mais il pense évidemment à ça et donc à établir le rapport de force nécessaire pour être le candidat dans 4 ans.
Gérard Araud, est-ce que les Républicains justement commencent à analyser leur défaite à la présidentielle, à en tirer des leçons ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, les leçons qu'ils en tirent sont épouvantables parce que ce sont des leçons qui sont d'essayer de s'engager dans la voie de ce qu'on appelle ici de vote suppression, c'est-à-dire faire tout pour que les minorités ou les milieux défavorisés ne puissent pas voter. Et donc, il y a à travers les États-Unis, puisque l'organisation des votes se fait au niveau des États, il y a des dizaines de nouvelles lois dans les législatures locales pour essayer de rendre le vote plus difficile. Non, le Parti républicain dérive vers l'extrême droite. Le Parti républicain, dans ses militants, suit Donald Trump. Et comme l'a dit Catherine, j'en suis convaincu, s'il n'est pas arrêté par des problèmes judiciaires ou financiers, parce qu'il va devoir refinancer pas mal de choses dans son entreprise, eh bien, il sera le candidat républicain en 2024. Et je ne vois pas qui pourrait d'ailleurs l'empêcher de l'être. Il veut se venger et... Revenons au résultat électoral. Il a quand même, son résultat est remarquable. Il a réussi à avoir 13 ou 14 millions de voix de plus qu'en 2016. Il a réussi à faire une percée dans les minorités, les latinos, mais aussi les noirs américains. Il a peut-être perdu de 3 ou de millions de voix dans le vote populaire, mais dans la réalité, une fois de plus, à cause du collège électoral, il n'a perdu que de quelques dizaines de milliers de voix. Donc, non, et puis l'homme n'acceptera jamais sa défaite. D'ailleurs, il répète qu'il avait gagné. Il sera là en 2024 si le juge, ou le banquier d'ailleurs, ne l'en empêche pas.
Merci beaucoup. Donc, duel qui continue ce Far West américain. On n'en a pas terminé. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce nouvel épisode de podcast. Gérard Araud, je rappelle votre livre, Passeport diplomatique chez Grasset. Merci Catherine et on se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode. À bientôt.